Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Du haut de ses 6 ans, elle m'a demandé si je pleurais. J'ai répondu bien sûr que non, c'est une satanée petite poussière qui me chatouille l'œil. Comment expliquer à une enfant que je pleurais devant la victoire de l'équipe de France de judo aux Jeux Olympiques? C'était pathétique. Ou peut-être pas. Une forte émotion, en tout cas, venait de m'envahir, incontrôlable. Les larmes m'étaient montées aux yeux, instantanément. Alors certes, j'étais rassurée sur mon système lacrymal, moins sur mon émotivité. Je ne connais pas ces athlètes. Je ne fais pas de judo, mon patriotisme sportif est plutôt mesuré. Alors pourquoi se mettre dans cet état-là pour une médaille d'or ? Je les ai souvent ravalées, ces larmes, je le fais encore, mais au fil du temps, je me suis autorisée à renifler dans une salle de ciné, parfois même devant la télé, à ne pas résister à un fou rire, à être bouleversée au son d'un piano, à être profondément émue par un dessin de l'enfant. Je me sens d'ailleurs moins seule. Sur nos écrans aussi, les pleurs sont fréquents, d'un JT à une émission de divertissement. Mais comment expliquer ce changement dans notre société? Comment est-on passé de « arrête de pleurer, t'es pas un bébé » à « ne retiens pas tes larmes » Et vous, avez-vous la larme facile?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer la place des émotions dans notre société. Bonjour Catherine Emelet-Pourrissol.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes thérapeute en logique émotionnelle et autrice notamment avec Aurore Emelet de Ma Bible des émotions, c'est aux éditions Le Duc. Avec nous également Francis Métivier. Bonjour Francis.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de La joie des larmes chez Pygmalion et dans quelques jours sortira une bande dessinée René le philosophe, Descartes et la liberté de penser chez Dunod Éditions. Et bonjour Alexia Laroche-Joubert.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir, vous êtes productrice d'émissions télé et notamment de Koh-Lanta, l'édition des 20 ans. Et oui, 20 ans d'existence va débuter demain sur TF1 et vous avez un regard acéré sur la place des émotions à la télé. On avait très envie de vous entendre sur ce sujet. Nous avons demandé aux auditeurs et aux auditrices s'ils avaient la larme facile. Alors est-ce que c'est votre cas? Est-ce que votre système lacrymal fonctionne particulièrement bien? Catherine Emelet-Pourrissol.
Alors très très bien.
C'est vrai.
Je suis tout à fait contente de l'état intime de cette manifestation, mais pas n'importe quand, pas dans n'importe circonstance. Voilà, mais je.
On va voir la diversité des larmes.
C'est ça.
Évidemment, elles sont très diverses. Francis Métivier, est-ce que vous avez un système lacrymal qui fonctionne à
oui,
plein tube?
Ça fonctionne bien, mais avec l'âge, les larmes sont de plus en plus esthétiques. Au cinéma, la musique, le sport. Et je pleure plus quand je suis en colère. Je suis en colère, c'est tout.
Est-ce que vous avez pleuré devant une équipe de France de judo?
Non.
Ah non, vous êtes moins émotif que moi alors peut-être. Ou c'est pas le judo qui vous plaît en fait?
Plutôt la natation ou
ah oui.
Le handball.
Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Alexia Laroche-Joubert.
Alors moi c'est particulier parce que moi je suis dure au mal. Donc je ne pleure jamais sur des choses qui m'arrivent. Je pleure sur des choses qui arrivent aux autres. Donc je suis une excellente cliente du déversement lacrymal devant la télévision ou au cinéma. Mais dès que ça me concerne, j'arrête de pleurer.
Et devant les programmes que vous produisez aussi?
Oui. Ah oui, moi je pleure parfait. D'ailleurs, c'est même un bon indice pour moi de la qualité des programmes que je produis. Oui, je pleure de mes... Voilà, tant que ça ne me concerne pas, en fin de compte, et c'est probablement un truc qui est intéressant par rapport à la télévision, c'est que ça fait écho, mais ça ne vous concerne pas.
Ah ben on va voir si c'est le cas, on va en parler avec vous Catherine Emelet-Pourrissol. Est-ce qu'une émotion a toujours une bonne raison d'apparaître? Est-ce que quelque chose s'est passé pour que naisse cette émotion?
Alors ça a toujours une bonne raison d'apparaître qui n'est pas forcément liée à ce qui se passe, à ce que nous voyons ou entendons, mais il y a toujours une bonne raison intime. C'est-à-dire que ce que nous percevons trouve une résonance, comme une caisse de résonance à oui. l'intérieur de soi, de sa mémoire, de son histoire, de sa sensibilité. Et donc, oui, nous pouvons pleurer pour un rien, mais jamais pour rien.
Voilà. Mais alors, en même temps, les pleurs ont cette particularité, c'est qu'ils peuvent arriver dans le cadre d'une joie intense ou d'un moment de tristesse.
Intense
aussi. Voilà. Il faut accorder de l'importance à toutes ces larmes. Vous les prenez
elles sont
sur
là.
Un pied d'égalité.
Oui, elles sont là, elles disent quelque chose de soi, de sa sensibilité. Et donc, à ce titre-là, elles ont de l'importance pour nous-mêmes. Évidemment que socialement, elles participent à la façon dont nous sommes en relation avec les autres, avec la situation. Mais elles viennent dire d'abord quelque chose de nous-mêmes dans notre rapport, justement, à notre environnement. Et donc, à ce titre-là, nous avons tout intérêt à les prendre en considération et en fabriquer quelque part notre histoire à nous, parce que les larmes font partie vraiment de notre existence et de notre façon d'être en rapport.
Moi, c'est intéressant parce que je rebondis là-dessus. J'ai réfléchi à pourquoi. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je pleure jamais sur des choses qui m'arrivent. C'est un problème probablement, mais bon. Et j'ai essayé de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui me faisait pleurer quand je regardais un film ou la télévision ? Et c'est toujours la même séquence. C'est le sacrifice de quelqu'un. Alors, je vous donne un film qui s'appelle Volcano, qui est un film de l'histoire d'un volcan, etc. Et il y a une grand-mère qui va se sacrifier dans la lave pour sauver ses petits-enfants. Donc, tous les principes de sacrifice me transportent...
À chaque fois.
Alors, est-ce que c'est parce que moi, je ne serais pas capable de me sacrifier ? Ou est-ce que... parce que c'est... Enfin, voilà, ça fait écho à quelque chose que je n'analyse pas, mais c'est systématiquement ça.
Alors, vous dites que vous n'analysez pas, sauf que vous savez exactement à quelle séquence vous avez ces pleurs qui se déclenchent. Par exemple, alors, à titre personnel, je ne sais pas pourquoi je pleure à des moments qui sont extrêmement différents. Donc, Catherine Emily Périssol, j'imagine que tout ça dépend de notre histoire personnelle,
oui,
et de la façon dont on est dans la société aussi.
C'est ça, c'est dans la façon dont nous sommes en rapport avec notre environnement et comment nous y participons. Et ce que vous dites est très précieux. C'est-à-dire que oui, dans des situations dans lesquelles il y a quelque chose qui vient résonner avec le sacrifice, immédiatement, il y a votre façon à vous d'y participer à travers les larmes, c'est-à-dire c'est votre sensibilité et finalement stimuler, tirailler, et donc c'est votre façon d'y participer. Et c'est très précieux d'arriver à décoder dans l'ensemble des événements quoi vient nous stimuler.
Alors c'est intéressant qu'on parle tout de suite de sacrifice et de mort. Non mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que Francis Métivier, vous en parlez dans les premières pages de votre livre, La joie des larmes. Pour vous, vous dites que celui qui ne pleure pas est déjà mort. On se sent vivant quand on pleure ?
Bah, d'une manière générale, tout liquide qui sort du corps,
oui,
que ce soit des larmes ou autre chose, est quand même le signe et l'expression de la vie. Donc quand le liquide est absent, ou alors lorsque le liquide sent mauvais, c'est pas bon signe. C'est effectivement pleurer comme d'autres choses encore, c'est le signe de la vie. Après, si on ne pleure pas, pour utiliser une formule imagée, c'est qu'on a un cœur de pierre. Un cœur qui bat au sens physiologique, mais qui ne bat plus au plan affectif et au plan moral.
Alors les expressions, d'ailleurs, elles ont beaucoup de sens. Hein. Vous en utilisez plusieurs dans votre livre. Et pour revenir sur cette idée de fluidité et de liquidité, vous dites pleurer toutes les larmes de son corps, fondre en larmes. On a l'impression qu'on vide notre corps, en fait, quand on pleure.
Ouais, l'idée du livre, elle tient en deux mots, c'est pleurer liquide.
Ouais.
Donc liquide, c'est effectivement ce qui coule, ce qui n'est pas solide. C'est aussi, au sens figuré, tout ce qui est... liquidité, vous avez failli dire liquidation,
oui,
mais
fait,
effectivement, la liquidité liée aux pleurs, c'est le signe qu'on est en train de liquider. Alors, c'est pas la grande liquidation et les soldes, mais on est en train de, alors, non pas de se débarrasser de quelque chose, parce que pour ce qui est des peines et des traumatismes, je pense pas qu'on s'en débarrasse, mais il y a comme une sorte de purification. Je pense que les larmes symbolisent, enfin, sont l'expression de ce qui peut sortir de mauvais, de malsain dans une émotion qui en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise.
Vous n'avez pas l'impression, pardon,
Alexia,
je suis désolée,
mais
vous
n'avez
pas l'impression qu'on évacue quelque chose et que quand même ça permet,
oui,
on évacue la douleur, c'est-à-dire que quand même il y a,
oui,
je
ne
parle pas devant la télévision, hein, qui est encore autre chose, mais quand on pleure réellement face à une émotion forte, je pense que quand même ça permet de vous laver. Quoi.
Ah oui, c'est pour ça que je parlais de purification.
Hein, oui.
On se libère pas d'un traumatisme ou d'un sentiment, mais on liquide ce qui peut y avoir de malsain dans ce sentiment. Enfin, moi, j'ai cette impression. C'est pour ça qu'une fois qu'on a pleuré, on peut se sentir bien. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais on peut se sentir bien au moins momentanément parce qu'on est, plus léger, on est débarrassé d'un poids. Alors, encore une fois, pas le poids de l'émotion, mais peut-être le poids du côté noir, malsain, sordide de l'émotion, bon, qui revient malheureusement.
C'est dur de parler du côté malsain de l'émotion, parce que l'émotion, comme vous le dites, elle dit quelque chose de notre façon d'être vivant,
oui,
face à une situation. Et donc, c'est une façon qui contient effectivement de la douleur, de la mémoire, de peut-être même des peines profondes, intimes, auxquelles on n'a pas forcément accès, mais qui néanmoins participent pleinement de notre façon d'être vivant dans certaines circonstances. Et la liquidité dit quelque chose, effectivement, c'est comme une transpiration, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transpire de soi à travers les larmes et qui est notre façon de rester vivant dans certaines situations, et donc c'est très précieux, les larmes.
Oui. D'ailleurs, c'est marrant, parce que le terme liquidité, c'est quand même employé avec l'argent, et donc ça donne une valeur. C'est marrant, comme...
Ça donne une valeur à nos larmes, et donc à nos émotions.
À nos larmes.
Et Catherine Emelet-Périssol, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'autorise plus à pleurer aujourd'hui? Je sais que c'est totalement empirique. Enfin, nous, on a pensé à cette émission parce qu'on avait l'impression qu'on pleurait plus facilement, qu'on s'autorisait à pleurer à la fois dans l'espace privé et dans l'espace public.
Alors, c'est vrai que en règle générale, le registre émotionnel a trouvé plus de place et notamment plus de mots, M-O-T-S.
Oui.
Dans notre société actuelle, et que le recours à la psychologie et la verbalisation ont permis comme ça d'accéder à tout ce champ émotionnel et à cette expression. Ceci étant, ça a toujours existé. C'est-à-dire que même si ça ne se traduisait pas sous forme de larmes, ça se traduisait sous d'autres formes. Et combien de personnes peuvent témoigner du fait que, pour s'empêcher de pleurer, ils deviennent agressifs ou ils s'agitent, etc. Donc, l'émotion, c'est un système qui, de toute façon, va chercher à exprimer quelque chose. Donc, il y a les larmes, il y a la colère, il y a la peur, il y a l'excitation, la joie, etc. Mais de toute façon, quelque chose doit transpirer dans la situation dans laquelle nous sommes, à laquelle nous participons.
Alexia Laroche-Joubert, on va évoquer la place des émotions à la télé parce qu'elle est extrêmement importante. Demain, elles seront intenses, ces émotions, sur TF1 avec le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition spéciale puisque l'émission fête ses 20 ans. Et à cette occasion, 20 anciens candidats ont accepté de redevenir des aventuriers de l'extrême. Extrait des premières minutes.
Ils ont écrit l'histoire de cette aventure à nul autre pareil.
Ce qui vous motive, c'est l'envie de gagner, en fait.
20 ans de dépassement de soi.
Je suis prête à me battre.
Faut montrer qu'on est vraiment des légendes.
20 ans d'exploit.
Jésus !
Ah, j'ai trop contente.
Ils vous ont fait vibrer.
Je pensais pas que l'aventure nous pousserait si loin dans nos limites.
C'est énorme !
Ils ont marqué ces 20 ans d'épopée. Bienvenue dans Koh-Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
Alexia Laroche-Joubert, il y a quelques larmes parfois des candidats dans Koh-Lanta. Elles sont de quelle nature selon vous? Est-ce que ce sont les larmes qu'on peut retrouver chez des athlètes de haut niveau?
Alors, il y a plusieurs types de larmes sur Koh-Lanta parce qu'il y a des émotions qui sont, j'allais dire, assez pures parce que c'est débarrassé de tout. C'est-à-dire que c'est, comme on le sait, ils sont dépouillés. À la fois de nourriture, de repères de confort, etc. Donc ça génère des émotions très fortes. Alors il y a des émotions qui, moi, me touchent beaucoup, c'est les émotions de surpassement. Et là, c'est vrai qu'on rejoint des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que ça demande énormément de sacrifices que d'aller à Koh-Lanta, parce que on est, comme je vous le disais, on est privé de tout.
Vous avez utilisé le mot sacrifice.
Oui, mais voilà. Ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices sur de ne pas voir sa famille, de poser 50 jours quand on a un emploi, de faire 8 mois de sélection. Quelquefois, il y a des gens qui pendant 10 ans voient des dossiers, donc c'est des vrais sacrifices. Et quand les aventuriers, il y a un aventurier qui a le totem, la satisfaction dans une épreuve d'avoir le totem procure des émotions très fortes et on s'associe à ça. Voilà, donc ça c'est des émotions. Après il y a d'autres émotions qui sont des émotions de colère, qui peuvent être dans les rapports sociaux, dans le sentiment d'injustice, dans le fait d'être éliminé au conseil. Donc ça, il y a de la rage, de l'incompréhension, ou quelquefois aussi de la peine, parce que justement avec tous ces sacrifices, on se retrouve évincé. Et puis il y a quelques larmes qui sont aussi dans les courriers.
Oui.
C'est
des familles.
Moment, familles qui viennent, c'est des moments qui sont cruciaux dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est le fait de voir un être cher, de recevoir de l'amour dans un environnement quand même qui est un environnement de lutte.
Alors on va revenir sur toutes ces larmes et la façon dont nous pleurons aussi devant la télé. Est-ce que vous avez la larme facile? Vous arrive-t-il régulièrement de pleurer devant votre télé justement? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail et même une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir de la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site. La musique aux intonations brésiliennes de Marinheiro et son dernier titre, Through the Fog, extrait de son album Ella Love.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
On ne retient pas nos larmes ce matin dans l'été comme jamais. Sur nos écrans, les pleurs s'exposent avec émotion, évidemment. La preuve avec ce zapping concocté par Juliette Medevielle. Tendez l'oreille, les candidats de Pékin Express croisent ceux de L'Amour est dans le Pré, les invités de Rendez-vous un terre inconnu, les participants à l'émission La Lettre, Michel Drucker, inconsolable à la mort de Johnny Hallyday et Denis Brognard auprès des aventuriers de Koh-Lanta.
Bonjour à tous.
Bonjour Denis.
Bonjour Denis.
Sarah, vous le savez, vous êtes touchée au ventre. Le médecin, malheureusement, est formel. L'aventure se termine pour vous aujourd'hui.
C'est papa. Ça va? Oui, ça va, ça y est, j'ai réussi. Je suis arrivé jusqu'au bout.
On a gagné Pékin Express.
Je suis très fier de t'avoir rencontré. Tes enfants aussi et toute ta famille. Et ce pays qui me faisait rêver, ce sera un souvenir impérissable.
Et là, j'entends, elle a les yeux revolver, de Marc Lavoine, qui est mon chanteur préféré.
Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que
nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.
Elle a dit
Et là, j'ai un homme en face de moi qui a tout, qui me surprend de jour en jour, qui... Et en fait, j'ai l'impression d'être dans un rêve.
Alexia Laroche-Joubert, à partir de quand on va voir des gens pleurer à la télévision? En tout cas, ça n'est plus un tabou. Est-ce que ce sont les émissions de témoignages de type que celles présentées par Jean-Luc Delarue qui ont tout changé?
Oui, alors très clairement, en fin de compte, c'est quand le public a pris possession de la télévision. Ça a démarré avec Delarue, Mireille Dumas, ça s'est continué avec, en l'occurrence, aussi la télé-réalité et beaucoup d'émissions, alors des jeux d'aventure, des choses comme ça. Et ça, d'un seul coup, on s'est permis de pleurer à la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entendait des candidats, mais il y a aussi des animateurs.
Oui.
Et c'est vrai que Karine Le Marchand, avait un petit extrait de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand était l'une des premières à assumer ses émotions. Et je pense à un autre moment qui est très important, parce que là, on voyait la mort de Johnny. Nous, on a vécu en télévision un moment extrêmement fort, qui était le décès de Grégory Le Marchal. Et Nikos.
À la Star Academy.
Voilà, ouais. À la Star Academy. Nikos ouvre une émission spéciale. Il est en pleurs. Et donc cet homme qui est un animateur, qui est très institutionnel, qui est solennel, etc., d'un seul coup, il laisse l'émotion agir, il est submergé par celle-ci, et je trouve que face à notre téléviseur, ça nous autorise à pleurer. Et c'est moi, je trouve que la force de la télévision, c'est que d'un seul coup, elle a levé la honte. Elle a permis aux gens de se dire on peut pleurer avec des exemples auxquels on adhère et de se dire si eux pleurent, moi aussi je peux pleurer. Et j'espère qu'il y a une incidence sociologique et une sorte de désacralisation de l'alarme.
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que vous parlez quasiment d'un processus de mimétisme ou d'identification, ça dépend. Catherine Emelé-Périssol, pourquoi on pleure devant ces émissions? Il y a vraiment des cas très différents?
Je pense que le mot que vous venez d'employer, le mot mimétisme, c'est comme une contagion. Et donc, moi, je viens d'écouter à l'instant ce que vous avez déroulé. Incontestablement, je sentais à l'intérieur monter une espèce de vague. C'est pas allé jusqu'aux larmes, mais oui. J'étais touchée d'entendre la façon dont chacun témoignait de la façon dont ils étaient touchés. Donc, il y a effectivement un phénomène de mimétisme, mais qui existe naturellement pour toutes sortes d'émotions. Quelqu'un qui a peur, on va forcément interagir. Oui. Avec l'état de peur de la personne. Donc, mimétisme, contagion, ça existe. Et donc, à la télévision, c'est tout particulièrement l'espace dans lequel on peut le vivre.
Francis Métivier, on parle de ces larmes devant la télévision. Est-ce qu'elles sont de même nature que celles que nous avons, par exemple, au cinéma, que celles que nous avons quand nous avons un chagrin d'amour, par exemple?
Non, je crois pas, parce que... comment dire, le cinéma permet l'expression de ce qui est pour moi, la clé des pleurs et des émotions, c'est-à-dire l'identification.
Ouais.
Pleurer devant la télé, ça veut dire qu'il faudrait s'identifier à chaque fois à quelqu'un qui gagne Koh-Lanta. Moi, ça m'arrive pas. Il faudrait s'identifier à quelqu'un qui, dans une émission comme Perdu de vue, revoit son père qu'il avait perdu de vue 30 ans après. Ça m'arrive pas. Donc, comment dire, pour pleurer devant une émission de télévision, il faut vraiment qu'on ait une personnalité ou une vie qui soit similaire à oui. ce que l'on voit. Ce qui se passe, à mon avis, au cinéma, dans la musique, c'est quelque chose de plus universel, de plus général. Et c'est pour ça que on pleure peut-être plus facilement au cinéma et en écoutant de la musique. Enfin, je dis ça, en fait, j'en sais rien.
Oui, il n'y a pas de statistiques,
mais... On sait moins pourquoi, mais c'est aussi parce qu'on pleure, parce qu'il y a l'expression d'une douleur universelle qui crée un phénomène d'identification. Bon, je vais raconter une anecdote. J'ai pleuré la semaine dernière à l'enterrement d'un ami au moment où les enfants prenaient la parole.
Oui.
Donc, familialement, on se dit, oui, un jour, on sera à cette place ou à cette place. Et là, alors pour peu qu'on vous passe en même temps avec le temps de Léo Ferré, ça y est, quoi. Ça y est. Et en même temps, on ne peut pas, dans ces moments-là, pleurer de façon exubérante.
Alors, vous en parlez dans votre livre, mais c'est ça, c'est qu'on s'autorise plus à pleurer, en tout cas dans l'espace public, mais c'est toujours avec des codes sociaux, c'est-à-dire que vous prenez le cas de l'enterrement, mais c'est vrai qu'on n'irait pas pleurer comme on peut pleurer chez soi, ou parfois c'est avec des cris et je ne sais quoi, les ou des manifestations
oui,
plus
on
plus
n'engage
grandes.
Plus de pleureuses pour les enterrements, donc il y a une manière pudique et décente de pleurer, ce qui ne change en rien finalement la sincérité des émotions, mais bon, pour prendre un exemple, quand Obama...
On va y revenir à l'art des politiques, on va y revenir parce que c'est assez intéressant.
C'est marrant, parce que moi je suis pas d'accord avec vous.
C'est pas codifié, mais c'est limité. Oui. Parce qu'il va pas, Obama, il pleure juste ce qu'il faut, il y a une juste mesure. Il peut pas s'en empêcher. En même temps, il va pas se mettre à se rouler par terre et à pousser des cris, quoi.
Alexia,
je pense que la manière dont on pleure, c'est culturel aussi. Il y a une expression, il y a des codes culturels qui diffèrent en fonction des pays. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites par rapport au film et à la télévision, là où je m'inscris en faux, c'est que, en l'occurrence, on sait que c'est de la fiction. Donc, on sait qu'on va être recueilli. On sait qu'on va voir, par exemple, un film romantique parce qu'on va vivre des émotions fortes sur des histoires d'amour. Alors que la télévision, c'est quand même le principe du réel. C'est-à-dire que là, on est face à des gens qui ont des vrais sentiments, des vraies expressions. Et moi, je trouve que c'est plus simple de s'identifier justement face à quelqu'un qui vous ressemble et qui est dans la vérité de ce qu'il ressent que dans une fiction où on est cueilli. Ça, c'est vrai. Enfin, on est amené à pleurer, mais on sait que c'est pour le coup le comédien ne pleure pas réellement. Il interprète un rôle.
Oui, c'est un comédien. Après, à la télévision, moi, franchement, je remets pas en cause la sincérité des gens qui pleurent à la télévision. Ceci dit, les larmes sont quand même l'aboutissement d'un processus de scénarisation. Alors, je critique pas le côté artificiel ou fabriqué, parce que après tout, le film, la musique sont des œuvres fabriquées. Mais c'est vrai que c'est l'expression d'une sincérité qui peut-être sans la télévision n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire, est-ce que c'est la télévision qui fait pleurer? Ou est-ce que c'est le fait de pleurer qui nous amène à la télévision? Il y a quelque chose d'assez ambigu.
Mais... Est-ce que c'est un peu les deux peut-être?
Alors c'est un peu les deux, et il y a quelque chose, c'est que la télévision est un média. Il ne faut jamais oublier ça, donc c'est un média où on se dit des choses, où on parle à celui qui est derrière la télévision, mais aussi à celui quelquefois qui est à côté de vous, et ça permet de révéler des choses. C'est ça que j'aime bien dans les médias. Je vous donne un exemple. Moi, en l'occurrence, j'ai participé il y a très longtemps à une émission de télévision qui était présentée par Marc-Olivier Fogiel avec mon père, qui écrivait un livre sur sa vie qui a été difficile. Et j'ai pleuré. Et en fin de compte, je pense que j'ai laissé mes larmes pour dire à mon père, je reçois ta douleur, ce que tu me dis, je l'entends. Et je pense que l'intérêt de la télévision, c'est qu'à ce moment-là, c'était comme sanctuarisé. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que j'avais dit à mon père à travers mes larmes. Et la télévision m'a aidé à le faire. Alors, vous avez raison là-dessus. Peut-être qu'il y a ne serait-ce que le principe même de
focaliser,
la lumière.
Bien sûr, de la
lumière. La lumière qui va sur vous.
Et tout est exacerbé. Exacerbé.
Oui. Mais je trouve que c'est bénéfique.
Catherine Emily Périssol.
Oui, c'est-à-dire que que ce soit dans un cadre, sanctuarisé, que ce soit au cinéma, etc., même si raisonnablement nous disons ce sont des personnages, ils pleurent pas pour de vrai, etc., le cerveau, lui, il fait pas du tout cette différence.
Et oui.
Il reçoit l'information en direct, il est incapable, même si nous disons non, mais c'est pour de faux, les yeux perçoivent quelque chose qui rentre en résonance et ça ne passe pas avant que ce soit raisonnable ou raisonné, ça passe directement par quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus mémoriel, d'une forme de sensibilité. Et il me semble que ce soit au cinéma ou que ce soit dans le cadre plus privé de la télévision, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça trouve justement une voix, VOIE cette fois, une voix à l'intérieur de sa propre construction et effectivement, à travers les larmes, on dit quelque chose que très souvent on ne saurait pas dire avec des mots. Et donc c'est du coup les larmes sont aussi un média qui dit quelque chose, qui transmet quelque chose d'intime qu'on ne saurait pas dire avec des mots, une linguistique, parce que il y a d'ailleurs très souvent quand on demande à un enfant pourquoi il pleure, il est incapable, mais un adulte aussi, il ne sait pas pourquoi il pleure, juste il est là à pleurer.
Il y a Katia Lynn qui nous a dit sur Twitter, ma grand-mère disait que quand on pleure, on ne devient jamais fou. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail sur la page de l'émission L'été comme jamais. Je serais ravie de vous lire à l'antenne. La voix sublime de Dinah Washington sur France Inter pour un titre maintes fois repris, mais c'est sa version de Cry Me a River qui demeure une de mes préférées. Francis Métivier, vous consacrez plusieurs pages à cette chanson dans votre livre La joie des larmes. Elle symbolise quoi, cette rivière de larmes?
C'est une chanson où la musique et les paroles sont vraiment en adéquation. Oui. La musique et le fait que ce soit de la musique, la musique c'est un art du mouvement temporel. Et le fait que la peine amoureuse soit représentée par un fleuve qui coule, c'est-à-dire le temps qui passe et le sentiment qui s'enfuit, enfin en l'occurrence le sentiment de celui qu'elle aimait, le fait que ce soit représenté par une rivière et par des pleurs qui deviennent une rivière, c'est un beau symbole effectivement de la tristesse liée à la peine amoureuse, tristesse qu'il faut liquider encore une fois. Tout s'écoule comme disait Héraclite.
Alors exactement, on a reçu beaucoup de messages de nos auditeurs, je voudrais vous en lire quelques-uns. Evelyne qui nous dit que l'on pleure devant des émissions de télé-réalité montées de toutes pièces, je trouve ça indécent, tout cela est du sentimentalisme. Personnellement, je pleure devant des migrants qui sont en mer, je pleure devant des cataclysmes, je pleure lors des attentats, je pleure avec des vrais sentiments et pas des sentiments fabriqués. On va réagir à cela. Michel nous dit, je suis infirmière et je pleure énormément devant des séries comme Urgence ou Grey's Anatomy et plus généralement, dès qu'il s'agit de l'hôpital, j'ai souvent pensé que je versais toutes les larmes que j'avais retenues dans le cadre de mon travail. Alexia Laroche-Joubert, sur ces notions de sentimentalisme ou de fabrication des émotions, qu'est-ce que vous répondez?
Ce que je réponds, c'est que déjà, c'est pas les mêmes. Je trouve ça très important de pleurer sur les migrants. Moi, en l'occurrence, sur l'Afghanistan, ça, c'est quelque chose qui me touche. Ça n'empêche pas, alors des gens un peu plus jeunes, de pleurer sur de la télé-réalité. Et je pense que c'est pas, ça s'oppose pas. Je pense que les pleurs ne s'opposent pas, les émotions ne s'opposent pas. Sur la fabrication de ces émotions, on va dire le tire-larme.
Oui.
Je pense qu'on en parlait, vous en parliez très bien. C'est-à-dire, Francis, c'est que il y a des, c'est un peu, c'est vrai comme le cinéma, c'est-à-dire que on fait monter une émotion.
Il y a une mise en scène avec.
Non, alors c'est pas une mise en scène.
J'allais parler de la musique, par exemple. C'est pour ça que je parlais
de la musique, ou des choses comme ça. Il y a pas de mise en scène parce que pour le coup, le propre de ce type de programme, c'est que les émotions sont vraies. Mais comme vous l'avez aussi sur des émissions de la rue de Mireille Dumas, quand vous faites un reportage, il y a de la musique et pourtant c'est un reportage. Donc c'est pas une histoire de classification de qualité de programme. C'est juste que oui, on porte l'émotion et moi je pense que c'est salvateur et c'est en effet peut-être que ça permet aux téléspectateurs de ne pas devenir fous. De justement pouvoir pleurer, pour reprendre cette très jolie phrase qui a été dite par votre auditrice.
La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin de la télévision pour se dire des choses qui pourraient très bien se dire chez eux. La notion d'éclairage ne suffit pas, parce que justement l'éclairage, ça nous met en lumière, et ça devrait... Moi, si on m'éclaire, et si je passe à la télé, je ne dis plus rien. De mes émotions, ça va me rendre complètement muet. Je vais
alors
me retenir.
La diversité des gens.
Oui.
Moi, pourquoi je l'ai... Alors, je vous parle de mon exemple personnel, parce que il y avait une personne, un tiers, qui actionnait un peu comme un psy, on va être très clair, la parole, et ça c'est le propre du journaliste, qui permet de sortir des informations, ou peut-être aussi des émotions, ça c'est votre métier aussi. Et donc moi, le fait qu'il y ait une solennité, que d'un seul coup il y avait de la lumière, que quelqu'un disait me faisait parler mon père et me faisait parler moi, ça permettait d'avoir un fluide. C'est le cas de le dire, en fin de compte, un fluide. Et que la télévision peut permettre de fluidifier les émotions.
Je pense qu'il y a effectivement... Moi, j'aime beaucoup parce que, étant dans le studio, je vois aussi les gestes de chacun à parler sur ce sujet. Et il y a beaucoup le geste d'ouvrir. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle volontiers l'ouverture du cœur, qui passe à travers la sensibilité, à travers le ressenti. Et donc, l'hypothèse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est un accès... Et j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons, que ce soit l'aspect thérapeutique, que ce soit la télévision, que ce soit les livres, évidemment. Moi, je suis une lectrice assez compulsive. Et donc, ça.
Ou la musique,
ouvre, dont
on parlait avec
évidemment.
Francis Métivier,
Et donc, il y a quelque chose qui peut ouvrir un espace de sensibilité, un espace de parole, un espace sensoriel. Et il me semble que plus nous accédons à cet espace, plus nous nous humanisons. Et à partir de là, que ce soit face... Hier, je regardais une image de Beyrouth complètement dans un état, évidemment, de catastrophe totale humaine. Et je sentais cette bouffée à l'intérieur. C'est une image, c'est une photo. Et pourtant, elle a, on pourrait dire qu'elle a un pouvoir de susciter justement cette ouverture du cœur. Et il me semble que là, il y a vraiment quelque chose de fondamental dans notre actualité.
On parlait des larmes dans cet espace public. Les politiques n'échappent pas à ce constat. J'aimerais vous faire écouter deux extraits. Le premier se déroule à Bordeaux, on est en février 2019. Alain Juppé va quitter son poste de maire pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Extrait de son discours de départ.
Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
Francis Métivier, on est si peu habitué en France aux larmes de ces politiques que ces séquences sont souvent perçues comme de la communication politique avant tout. Donc, est-ce que les larmes ne peuvent pas être une preuve de sincérité ?
Non, c'est pas... Enfin... Ici, pour l'exemple de Juppé, je pense pas que ce soit de la communication politique. Voilà quelqu'un qui dit au revoir. Je pense pas qu'il a travaillé son rôle d'acteur, son acteur studio pour pleurer. Ce qui est impressionnant dans cette séquence, c'est qu'il y a autant de silence que de paroles.
La respiration.
Voilà, la respiration. C'est là qu'il se passe quelque chose, qu'on arrive à dire avec une voix qui tremble. Mais ce silence-là en dit beaucoup plus que... Enfin, en dit autant que les mots. Il est aussi constitutif de l'expression des pleurs. Et franchement, les politiques devraient pleurer un peu plus souvent. Mon estime pour eux remonterait assez... Parce que des fois, il y a de quoi. Hein.
Alors, justement, je voudrais vous faire écouter un deuxième extrait. La scène, cette fois-ci, se déroule sur le plateau de LCI. C'est Gérard Filoche, qui est membre du bureau national du PS, qui réagit à la mise en examen de Jérôme Cahuzac.
C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 euros par mois, dont on parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans. Je peux supporter ça. Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicales peuvent supporter ça. Une fois, une seule fois.
On entend la colère, la voix qui s'étrangle et puis les larmes qui viennent. Alexelle Rejoubert, ils oublient en fait les caméras dans ces moments-là, nos hommes politiques.
En l'occurrence, il a un vrai discours.
Oui.
Donc il va à la télévision pour exprimer ce discours. Après qu'il soit submergé par l'émotion, visiblement c'est le cas.
Oui.
Là c'est un peu différent parce que les politiques, ils ont un discours derrière. Et donc, ils utilisent toutes les armes qui peuvent être la colère. Enfin, au final, ils actionnent des émotions. Voilà, ils actionnent des émotions. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'ils pleurent davantage, mais en sont-ils capables? Je ne sais pas, parce que la fonction est quand même difficile et que la stature est nécessaire. Donc, c'est pas simple. On sait par exemple qu'en Angleterre, il y a beaucoup de programmes où des hommes politiques se mettent en scène. En l'occurrence, entre guillemets, des programmes, ce qu'on appelle nous des factuels. Alors, c'est une sorte de télé-réalité. Pour justement exprimer des émotions et qu'on les voit différemment. Donc là, ça rentre dans un principe de proximité avec le téléspectateur, de « je suis comme vous, votez pour moi ». Un peu. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut démasquer
ce qui est de la fabrication,
et de ce qui est réel.
De la sincérité.
Là, vos deux exemples sont réels.
Oui, Catherine Emery Périssol, comment vous percevez ça, l'émotion chez les politiques?
Il me semble que même si ça démarre sur un modèle d'une indignation, qui a vocation vraiment à faire passer un message, etc. Le mécanisme physiologique même de l'émotion fait que petit à petit, il me semble qu'il est gagné lui-même par sa propre émotivité et qu'on finit par l'entendre. Mais je pense que c'est vrai aussi chez Juppé qu'il y a l'intention de dire quelque chose de cette séparation qui est tellement difficile pour lui et que malgré lui, il est gagné par sa propre émotivité parce que, encore une fois, l'émotion, même si elle a évidemment une dimension culturelle et une dimension de « je vais donner un message », il y a quelque chose qui nous échappe complètement, qui est vraiment très intime, très physiologique, très archaïque dans l'émotion et ça peut transparaître malgré soi. Parce que nous sommes tout simplement des êtres humains constitués avec ce modèle cérébral-là.
Marie nous écrit « Je pleure très souvent, mais toujours sur des émotions positives. Une histoire touchante, un paysage, une parole entendue, la joie d'un autre. Par contre, jamais lorsqu'il m'arrive quelque chose de triste. Je viens de perdre ma belle-mère. La première larme a mis 4 jours à sortir, comme si ce n'étaient pas les mêmes larmes. » Ça, vous l'expliquez très bien, Francis Métivier, dans votre livre. Les larmes, elles sont de nature extrêmement différente d'un cas à l'autre.
Les causes. Alors, j'avais entendu sur France Inter un scientifique expliquer que les larmes qui coulent parce qu'on coupe des oignons ont pas des propriétés physico-chimiques que les larmes qu'on... Alors, bon, après, j'ai pas, c'est tout ce que j'ai retenu. Donc, il y a des larmes, effectivement, apparemment, physiologiquement différentes. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est la diversité des raisons pour lesquelles on pleure et surtout l'échelle de conscience qu'on a de ces raisons. Parce que des fois, on pleure, on sait pas trop pourquoi. On sait à peu près, mais ça reste très vague.
Mais c'est bien de pas savoir pourquoi non plus, je trouve. Parfois, de se laisser juste envahir par l'émotion.
On sait à cause de quoi une musique, mais pourquoi cette musique, précisément, il y a quelque chose de profond qu'on a du mal à dire et à trouver, en fait.
Hervé vient de nous appeler. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez la larme facile, Hervé?
Alors, non, pour le coup, je ne l'ai pas si facile que ça.
Oui.
Je peux avoir de l'émotion, mais la larme ne coule pas si facilement que ça. Hein. Voilà. Mais j'appelais simplement parce que voilà, j'ai eu une expérience où j'ai pleuré vraiment à chaudes larmes pour le coup, alors que voilà, c'est pas habituel.
Oui. Et c'était à quelle occasion?
Alors pour moi, c'était devant une série. Alors sur la fin d'une série, je ne sais pas si je peux dire le nom de la série.
Bien sûr, bien sûr.
Oui. Alors c'est une série qui s'appelle It's a Sin.
Oui, bien sûr, années SIDA, tout à fait dans les années 80.
Voilà, sur l'apparition de l'épidémie à Londres notamment. Et pour le coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je m'étais pas. Enfin, on s'attache bien sûr au personnage, à une histoire. Mais là, pourtant, c'est vraiment sur la toute fin de la série où je me suis mis à pleurer alors que ça traitait d'aucun des personnages principaux, sur la détresse finalement d'un patient qui était touché par le sida et de sa solitude. Et là, ça m'a vraiment mis un coup mais profondément en moi, et j'ai pleuré à chaudes larmes, et je me suis dit mais voilà, je me sens relié à mon espèce. Alors je suis pas homosexuel, je connais pas de personnes qui ont eu le SIDA proche de moi, et pourtant je me suis senti appartenir à l'être humain, tout simplement. Je me suis dit mais ça y est, je sors de ma bulle du quotidien. Je sors un peu du ronron dans lequel on vit tous les jours pour me dire mais je fais partie de tout ça et ça me touche.
Merci voilà. Infiniment pour votre message. On sent que vous êtes ému aussi à l'idée de nous raconter ce moment-là. Et vous avez bien raison, elle est extrêmement émouvante, cette série que je vous recommande. It's a Sin, c'est sur Canal+. Encore un peu d'émotion et de douceur en musique sur France Inter.
Sur ma peau, poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre à tes lèvres, à moitié chaude, promettent des choses.
La douce voix d'Iliona et sa chanson Une autre vie sur France Inter. Et il est temps pour moi de remercier nos invités du jour. Merci Francis Métivier.
Merci.
Je conseille notamment votre livre La joie des larmes aux éditions Pygmalion, en attendant la sortie de votre BD réalisée avec Michaël Roux, consacré à René Descartes aux éditions Dunod. Merci Catherine Emelé-Périssol.
Merci à vous.
Et je rappelle votre livre Ma Bible des émotions, et c'est chez Deluc Éditions. Et merci Alexia Laroche-Joubert. Rendez-vous demain à 21h sur TF1 pour la nouvelle saison de Koh-Lanta.
Koh-Lanta Et même des aventuriers aussi aguerris pleurent.
Et pleurent, on le verra évidemment dès demain. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger ce sujet avec un film d'animation qui résume en grande partie ce que nous venons de nous dire. Il s'agit de Vice Versa, l'œuvre des studios Pixar, inspirée par la théorie des émotions du psychologue Paul Ekman. Vous allez pénétrer dans le cerveau d'une petite fille prénommée Riley, et chaque émotion, la peur, la joie, la colère, la tristesse et le dégoût, sont des personnages à part entière qui tentent de gérer le quotidien de cet enfant troublé par un récent déménagement. J'ai versé des litres de larmes en découvrant ce film, mais je vous le conseille, il pourrait ranimer des souvenirs d'enfance. Ce numéro de L'été comme jamais n'aurait jamais pu exister sans Juliette Médevielle à la réalisation, Florian Dorimini à la technique, Margot Page, Anna Massardier, Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. On se retrouve demain à 9h sur France Inter. Nous tenterons de comprendre comment nous pouvons réapprendre à vivre avec les animaux.